Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours.
Auditrice, auditeur, bonjour. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée. Je vous souhaite un bon dimanche et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yves Verrier, secrétaire confédéral de Force ouvrière, chargé notamment du travail de cette confédération à l'Organisation internationale du travail. Bonjour Yves. Est-ce que bonjour. Tu peux d'ores et déjà te présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Oui, bonjour. Donc je suis, comme tu viens de le dire, secrétaire confédéral depuis 2004 au sein de Force ouvrière. J'ai très vite pris en charge à ce titre notamment les questions internationales et européennes. Et j'ai depuis pas mal d'années maintenant un mandat de la Confédération syndicale internationale qui est la principale, voire l'unique aujourd'hui confédération syndicale au niveau international qui regroupe la plupart des confédérations syndicales nationales de la plupart des pays dans le monde, en tout cas des pays démocratiques où le syndicat a la capacité de s'organiser librement, on va dire. Et à ce titre, donc, je suis en charge de représenter les travailleurs au sein de ce qu'on appelle le comité de la liberté syndicale, qui est une sorte de tribunal qui examine toutes les plaintes qui arrivent à l'OIT en matière de violation de la liberté syndicale ou du droit de négociation collective. Auparavant, je suis quand même travailleur, je suis ingénieur météo de formation, j'ai exercé donc le métier d'ingénieur de la météo pendant un peu plus de 10 à 15 ans, et ensuite j'ai exercé divers mandats au sein de Force ouvrière à différents niveaux.
Très bien, alors là on est vraiment dans le cœur du sujet, ça nous intéresse au niveau justement de cette Organisation internationale du travail, de ce Bureau international du travail aussi, parce que depuis 3 ans, sous l'impulsion de quelqu'un que tu as bien connu, qui est Marc Blondel, parce qu'il a été secrétaire général de Force ouvrière, et puis après, cet homme-là ne prenant jamais de retraite, est devenu président de la Fédération nationale de la libre pensée. Nous avons constitué avec lui l'Association internationale de la libre pensée, et cette association-là est présente depuis maintenant 2 ans, 3 ans, à la session de juin de l'OIT. Et il nous semble important justement de revenir sur l'importance de cette organisation tripartite qu'est l'OIT, où, juste comme tu viens de le dire, les syndicats de travailleurs sont représentés, mais il y a aussi les représentants du patronat et les représentants des gouvernements. Peux-tu nous indiquer justement les grandes lignes de cette création de l'OIT et son rôle, même si tu as commencé à l'aborder, c'est intéressant, son rôle hier comme aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors, l'Organisation internationale du travail est une organisation du type agence onusienne, c'est-à-dire une organisation intergouvernementale qui regroupe aujourd'hui 187 pays qui sont donc membres de cette OIT, de l'Organisation internationale du travail. Cependant, donc, comme toutes les organisations intergouvernementales, elle est un lieu de débat entre les différents pays et avec une particularité forte qui est qu'elle est un lieu d'élaboration et d'adoption de traités internationaux qui sont ensuite soumis à ratification par les pays. Sauf que ces traités portent sur les questions liées aux conditions de travail, ce qu'on appelle les normes internationales du travail. On y reviendra sans doute un peu plus en détail rapidement. Mais à la différence des autres organisations intergouvernementales, y compris celles qui élaborent des traités, par exemple à un échelon régional, l'Union européenne, les traités européens sont bien connus. L'Organisation internationale du travail a la singularité que chaque pays est non seulement représentée par son gouvernement, mais également par les représentants d'une part des travailleurs et d'autre part des employeurs. Et c'est donc un endroit où chaque année, ce qu'on appelle la Conférence internationale du travail se réunit et bientôt la prochaine session va s'ouvrir, fin mai, je vais m'y rendre pour 2 semaines et demie, 3 semaines même. À cette conférence qui réunit l'ensemble des délégations de l'ensemble des pays, comme chaque pays est représenté par ses 3 parties, on a de l'ordre de 3000 délégués en réalité qui sont réunis. C'est une assemblée générale, un peu l'équivalent de l'assemblée générale des Nations Unies. Donc 3000 délégués, mais chaque groupe se réunit en tant que tel. Donc les travailleurs qui sont présents des différents pays du monde donc se réunissent comme groupe des travailleurs, les employeurs de leur côté, les gouvernements de leur côté. Et les positions sont prises pour ce qui est d'un débat sur une convention, par exemple, groupe par groupe, et ensuite éventuellement voter avec une majorité des 2/3 pour adopter une convention. Donc les conventions qui deviennent des traités soumis à ratification et donc qui engagent les gouvernements sont le produit d'une négociation tripartite. C'est pour ça qu'on appelle cette organisation une organisation tripartite. Donc entre employeurs, travailleurs et gouvernements à l'échelle internationale.
Et dans ce genre de négociation, est-ce que vous voyez des avancées, pas qualitatifs ? Est-ce que tu peux donner un exemple ?
Je vais donner 2 exemples. D'abord, pour ramener un peu sur l'histoire, l'OIT a été créée en 1919 par le traité de Versailles, au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'idée était, et c'est les statuts de l'OIT, le préambule des statuts dit, c'est la première phrase, attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Donc l'idée était d'établir des normes minimales internationales qui évitent demain la misère qui était source de risques à nouveau de conflits tel que celui qui avait lieu. Et la première convention qui a été adoptée en 1919, la convention numéro 1, au moment de la fondation de l'OIT, donc, est celle qui a établi la journée de travail à 8 heures et la semaine de travail à 48 heures. 48 heures parce qu'à l'époque, on travaillait 6 jours par semaine, 6 fois 8, 48. Et cette convention était l'aboutissement d'une revendication historique. On n'est pas très loin du 1er mai ces temps-ci, des travailleurs qui, depuis 1886, à Chicago, avaient mis à l'ordre du jour, chaque 1er mai, la solidarité internationale pour obtenir la journée des 8 heures. Et ça a été la première convention de l'OIT qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui peu à peu s'est imposé. Aujourd'hui, on a un débat, par exemple, sur le devenir du temps de travail, et la norme des 48 heures maximales hebdomadaires reste une référence. Évidemment, c'est pas la durée légale, c'est pas à comparer aux 35 heures, par exemple, en France. C'est la norme maximale au-delà de laquelle on considère que la santé et la sécurité des travailleurs est mise en jeu. Donc, norme maximale y inclut les heures supplémentaires ou les modulations de temps de travail quand ça existe. Plus récemment, je vais donner un autre exemple qui m'est cher, puisque j'étais le porte-parole des travailleurs sur ce débat. L'OIT a adopté un protocole qui vient s'ajouter à la convention numéro 29, qui date de 1930. J'en suis assez fier, puisqu'à l'époque, Léon Jouot, qui était le secrétaire général de la CGT, qui est devenu le président de FO en 1948, était le porte-parole des travailleurs. La convention 29, en 1930, voulait abolir le travail forcé dans le monde. C'était une époque où il y avait encore des colonies, donc cette convention comportait un certain nombre de dérogations qui permettaient du travail obligatoire dans le cadre des colonies, ce qui avait d'ailleurs mis en colère Léon Jouot. On a réussi avec bien du mal à adopter un protocole qui vient éliminer toutes ces dérogations. Évidemment, elles n'étaient plus en vigueur, elles n'étaient plus exercées, sauf qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est surtout le secteur privé, et notamment dans le cadre des migrations, il y a plus de 21 millions de personnes dans le monde, hommes, femmes, enfants, qui sont victimes du travail forcé. On ne sait pas que le travail forcé génère des profits illégaux, certes, mais 150 milliards de dollars de profits annuels générés par le travail forcé. Donc on vient d'adopter en 2014 un protocole qui va obliger les gouvernements à mettre en place des plans nationaux qui vont être sous surveillance de l'OIT, parce que c'est l'intérêt de l'OIT. Elle adopte des conventions, mais elle a aussi un système de supervision et de contrôle de la mise en œuvre effective de ces conventions. Donc, les gouvernements vont devoir rendre des comptes sur les plans d'action qu'ils vont mettre en place pour éradiquer effectivement le travail forcé.
Voilà, voilà donc du concret, ça c'est vraiment intéressant. Sur la France spécifiquement, on a connu depuis un an, même si ça s'est, ça s'est arrêté sur l'année, d'une part, à mon avis aussi, du fait des élections, mais nous avons connu une mobilisation extrêmement importante contre la loi travail. La Libre Pensée, la Fédération nationale de la Libre Pensée, s'est exprimée pour le retrait du projet et l'abrogation de la loi quand elle a été votée, s'appuyant notamment sur la réintroduction d'un article qui a été réintroduit au Sénat de manière un peu cachée au début et qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale. Et l'article est rédigé ainsi. Il dit « Le règlement intérieur peut... par accord d'entreprise, contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Pour notre part, Libre Pensée, nous considérons que cet article entraîne et développe une forme de communautarisme, niant aux citoyens, dans l'entreprise, sa qualité de citoyen en tant que tel. Est-ce que vous, alors au niveau international, vous avez reconnu, vu ce genre de choses au sein, par exemple, de l'OIT, ce type, je dirais, d'offensive, de communautarisation des entreprises pour justement continuer à exploiter les travailleurs?
Alors, au niveau international, cette question, elle ne se pose pas exactement dans ces termes parce que, évidemment, d'un pays à l'autre, les lois en la matière, et notamment la question de la laïcité, qui est une, quand même une certaine singularité française, pas seulement, mais ça fait partie des singularités, c'est la séparation, par exemple, des églises de l'État, c'est quand même une exception dans beaucoup de pays du monde encore. Donc cette question, elle se pose pas dans ces termes. Au niveau international, la question, elle se pose plutôt en termes de non-discrimination et de capacité d'accéder à égalité. Sans interférence en lien avec telle ou telle confession religieuse ou telle ou telle orientation philosophique ou évidemment l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité d'accès à l'emploi dans les mêmes conditions de travail, de salaire. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle les normes fondamentales du travail de l'OIT qui porte sur la liberté syndicale, bien sûr, mais sur l'interdiction du travail forcé, du travail des enfants, mais également sur l'égalité de rémunération et la lutte contre toute forme de discrimination. Puisqu'on parlait de Marc Blondel tout à l'heure, c'est lui qui m'a formé à l'Organisation internationale du travail. Et sur ce sujet, je me rappelle d'une formule. Il m'avait amené la première fois à Genève, là où se situe le siège du BIT, et m'avait expliqué, tu vas voir, demain, on était à la veille de cette conférence internationale, tu vas voir demain, ici, c'est la Babel du monde du travail. Parce que, évidemment, les travailleurs viennent du monde entier, de toutes couleurs, de toutes origines, confessions, hommes, femmes. Donc voilà, c'est plutôt posé en termes d'égalité du point de vue du droit au travail, à travail égal, salaire égal. C'est dans le préambule de la Constitution de l'OIT.
Et pour revenir un petit peu sur la place de la France et peut-être la session de l'année dernière ou la session de cette année, parce que je ne sais pas quelle va être l'incidence, est-ce que la question de la loi travail a une incidence et va avoir une incidence sur la session de l'OIT?
Alors, la question de la loi travail, elle se pose notamment du point de vue, quelque chose qui a eu du succès finalement et qu'on a fait connaître Force ouvrière en particulier sur cet enjeu, c'est la question de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire du niveau de la négociation. À quel endroit
ça parle aux délégués du BIT, ça.
Exactement, parce que la liberté syndicale et la liberté de négociation collective veut que le niveau de la négociation doit être décidé librement par les interlocuteurs à la négociation, c'est-à-dire les employeurs, les travailleurs. C'est-à-dire, c'est aux travailleurs et donc aux syndicats et aux organisations d'employeurs de décider si c'est un accord de branche qui établit une norme pour l'ensemble d'un secteur d'activité, par exemple, ou si telle ou telle matière est renvoyée au niveau de l'entreprise. Et en général, on condamne toute interférence arbitraire du gouvernement ou de la législation en la matière. Donc, évidemment, c'est un enjeu. On a d'ailleurs déposé une plainte à l'OIT sur cet aspect des choses vis-à-vis de la liberté de négociation.
Quels sont, dans l'avenir, là, il nous reste 2-3 minutes, mais quels sont les enjeux à venir au sein de l'OIT ?
Alors, l'OIT va avoir bientôt un siècle d'existence.
Oui.
Il est malheureusement à la fois évident qu'on n'a pas réussi à établir la justice sociale partout dans le monde, loin s'en faut, malheureusement. Pour des raisons qui sont diverses. L'OIT a eu des effets majeurs, hein. Faut pas le contester. Et on est en capacité aujourd'hui de protéger la liberté de syndicalistes dans le monde. Aujourd'hui, on a des plaintes des travailleurs qui sont en prison et qu'on essaye de protéger, qu'on a pu faire libérer, par exemple en Chine récemment. Mais évidemment, tous ne bénéficient pas, et c'est tout l'enjeu de la mondialisation, hein, le dumping social.
Bien sûr.
Donc, on n'y est pas encore. Il y a par exemple deux enjeux majeurs. Un, la financiarisation de l'économie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème auquel on est confronté à l'OIT, c'est que les employeurs qui sont en face de nous, nous ne savons plus vraiment si ce sont des employeurs ou des salariés des grands actionnaires. Et ça, c'est une difficulté. On n'a plus en face de nous véritablement des entrepreneurs qui savent l'enjeu qu'il y a d'une bonne régulation de l'économie pour une production.
C'est plus les maîtres des marchés que les maîtres des forges.
Voilà, c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu, c'est les multinationales. Il y a une grosse discussion en ce moment au sein de l'OIT sur la responsabilisation des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des grands groupes vis-à-vis de leurs sous-traitants. Tout le monde a entendu parler du drame du Rana Plaza au Bangladesh. 1500 salariés morts de l'effondrement pour faute de surveillance suffisante en matière de sécurité, de conditions de logement des travailleurs. Et qui est responsable ? Les grandes marques. Dernier enjeu, bien sûr, les nouvelles formes de travail, l'impact de la numérisation de l'économie, notamment sur les relations de travail.
Eh bien, écoute, Yves, voilà beaucoup de travaux sur le chantier à réaliser, sur lesquels travailler et sur lesquels répondre. Pour notre part, on te remercie au niveau de la Fédération nationale de la libre pensée d'être venu dans cette émission-là. Nous vous souhaitons, auditrices, auditeurs, un très bon dimanche. Je remercie à la réalisation Dany Journeau et à la technique Bernard Laniel. Merci, bon dimanche. Et au mois prochain.
Toutes les femmes, c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Graham sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre vie.